les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Pierre Berlioz, professeur de droit, nous parle de la propriété. Deuxième épisode, qu'est-ce que la propriété ?
Bonjour chers auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la série consacrée à la propriété. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qu'est le droit de propriété exactement dans notre code. L'article 544 du code civil le définit de la manière suivante. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Traditionnellement, on dit que le droit de propriété confère 3 prérogatives sur la chose. En faire usage, l'usus, en tirer les fruits, fructus, et en disposer, l'abusus. La propriété serait la somme de ces prérogatives. Cette trilogie est classique, mais elle n'est pas véritablement exacte. En fait, elle est contradictoire. Elle est contradictoire lorsque le propriétaire est privé de l'une de ses prérogatives. Par exemple, lorsqu'on constitue un usufruit, c'est-à-dire un droit réel d'usage sur la chose. L'usufruit, on le présente comme conférant à son titulaire le droit d'user et de tirer les fruits de la chose. Autrement dit, l'usus et le fructus. Le propriétaire, lui, qualifié de nu propriétaire, conserverait l'abusus, droit de disposition. Et alors on a un paradoxe. La propriété, qui est la somme des 3 prérogatives, usus, fructus, abusus, reste la propriété, et pourtant elle est amputée d'une partie d'elle-même. Le propriétaire, dans cette situation, n'a plus que l'abusus, il n'a plus l'usus et le fructus. Donc, il n'a plus la somme de ses prérogatives. Donc il n'est plus propriétaire en réalité. Et on dit d'ailleurs de lui qu'il est nu propriétaire. Ça montre bien la problématique. On hésite à le qualifier de propriétaire parce que son droit est diminué. Mais en réalité, il reste bien propriétaire. C'est dire que cette trilogie illustre la propriété, mais qu'en réalité, elle n'en rend pas vraiment compte. La propriété, de fait, ne peut pas être définie par des prérogatives particulières. Ce qui caractérise la propriété, c'est qu'elle n'a pas de contenu, et c'est ça qui la distingue des autres droits. Pourquoi cette spécificité ? Parce qu'elle a une nature différente des autres droits. Les autres droits sont un lien entre 2 personnes, par lesquelles l'une peut obtenir quelque chose de l'autre. La propriété, elle, ne s'attache qu'à une personne à qui elle confère la maîtrise exclusive d'une chose.
C'est à moi, ça, de Michel Van Zeveren. Dans la jungle, terrible jungle, une grenouille trouve un œuf. Ah, c'est à moi, ça. C'est à moi, ça, dit le serpent.
Tut, 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 c'est à moi, ça, dit l'aigle.
Hum, hum, c'est à moi, ça, dit le varan.
Non, à moi, dit l'aigle.
Non, à moi, dit le varan. Mais dans la dispute, l'œuf leur échappe.
La propriété, c'est d'abord et avant tout pouvoir dire qu'une chose est à moi et interdire aux autres de me la prendre. La propriété, c'est la protection juridique de la mainmise qu'une personne a sur une chose. Et ainsi, elle crée un espace privatif qui permet à la personne d'avoir le profit exclusif de la chose. Il peut en faire ce que bon lui semble et en retirer toutes les utilités possibles. C'est pour ça qu'elle n'a pas de contenu prédéterminé. Les prérogatives du propriétaire, les avantages que son droit lui fournit, sont déterminés par les caractéristiques de la chose. Et ce, dans les limites posées par la loi. c'est dire que la propriété n'est en réalité rien d'autre que l'expression de la liberté d'une personne sur une chose grâce à laquelle cette personne peut faire tout ce qu'elle veut de la seconde. Et on retrouve cette approche de la liberté, de la propriété, à la lecture de l'article 544 du Code civil. Je vous le rappelle, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Ce texte dit bien que le propriétaire peut faire de sa chose tout ce qui ne lui est pas interdit, ce qui correspond exactement à la définition de la liberté.
It doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility.
Alors le propriétaire dispose des pouvoirs les plus étendus sur la chose, mais ça ne signifie pas qu'ils sont sans limite, ces pouvoirs. L'exercice de la propriété, comme l'exercice de toute liberté, peut être source de responsabilité pour le propriétaire. Responsabilité à plusieurs titres. D'abord, lorsqu'il commet une faute, lorsqu'il fait usage de sa chose. Lorsqu'on fait usage de ce qui nous appartient, on doit prendre des précautions, les précautions qu'une personne normalement sérieuse et diligente prendrait dans la même situation pour ne pas nuire à autrui. Le propriétaire est soumis à un devoir de prudence et de diligence, et s'il manque à ce devoir, il est sanctionné par l'obligation de réparer le préjudice qu'il a pu causer de ce fait. Le propriétaire engage aussi sa responsabilité lorsqu'il abuse de son droit. L'abus de droit fonctionne dans tous les secteurs du droit, y compris en matière de propriété. Et il a été notamment consacré dans un arrêt célèbre du 3 août 1915. C'était au début du XXe siècle, et le voisin de Clément Bayard, qui avait pour passion les dirigeables et qui faisait voler les dirigeables depuis son terrain, son voisin avait installé des carcasses de bois qu'il avait surmontées de tiges de fer de 3 mètres de hauteur au-dessus de carcasses de bois de 16 mètres de hauteur. Et comme ça, quand les dirigeables de son voisin décollaient, ils allaient se planter sur les pics de bois et de fer et se déchiraient et donc ne pouvaient pas décoller. Les juges ont considéré que ces constructions avaient pour but de nuire aux voisins et donc constituer un abus du droit. Parce que l'abus du droit, c'est nuire à autrui, utiliser son droit dans le seul but de nuire à autrui. Et bien la propriété, si on en use dans le seul but de nuire à autrui, on engage sa responsabilité. On peut même engager sa responsabilité en tant que propriétaire sans commettre de faute. Ça, c'est l'effet d'une théorie célèbre qui est celle de la théorie des troubles anormaux de voisinage. Parce qu'on sait bien, les uns comme les autres, que quand on est propriétaire, on ne vit pas dans un espace clos, on ne vit pas en vase clos. La propriété, en principe, c'est la possibilité de s'abstraire de tout le monde pour user de sa chose tout seul, comme bon nous semble. Mais quand on est propriétaire d'un terrain, quand on est propriétaire d'une maison, quand on est propriétaire d'un appartement, on a des voisins. Et ces voisins, ils ont le même droit que nous. Ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent de la chose. Mais, encore une fois, personne n'est isolé des autres. Il y a forcément des interférences. Alors ces interférences, le Code civil essaie de les réduire, mais il n'y arrive pas complètement. Et c'est pour ça que la jurisprudence a créé cette théorie des troubles anormaux de voisinage pour réduire ces interférences, pour en fait arriver à rétablir l'équilibre qu'il peut y avoir entre les propriétaires. Parce que chaque propriétaire, je l'ai dit, a le droit de faire ce qu'il veut de sa chose. Donc, entre voisins, on est confronté à des personnes qui ont des droits de force équivalente. Donc, par principe, comme ils sont de force équivalente, ils doivent s'équilibrer. S'il y en a un qui prend le pas sur l'autre, de manière excessive, et il faut intervenir pour rééquilibrer ses droits. C'est la jurisprudence sur les troubles anormaux de voisinage. Le principe qui a été consacré par les tribunaux, c'est que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Alors ça peut être n'importe quel type de trouble. Ça peut être transformation de l'environnement du terrain, par exemple, la construction d'un bâtiment à côté de mon jardin. Ça peut être aussi une privation de lumière, ça peut être une pollution, ça peut être n'importe quoi, y compris le chant d'un coq.
Vous vous souvenez sûrement de son histoire. Le mois dernier, un coq, Maurice, c'est lui, accusé par ses voisins de chanter trop fort le matin, était finalement relaxé par la justice. Un cas loin d'être isolé, à la campagne, les plaintes pour nuisances sonores se multiplient.
Alors pour qu'il y ait quand même trouble anormal de voisinage, il faut que ça soit anormal. ce qui n'est pas le cas, en principe, du chant d'un coq à la campagne. Même si la normalité, c'est une notion qui n'est pas facile à définir. Mais ça dépend du lieu. Justement, la campagne, par exemple, le chant d'un coq dans la campagne n'est pas anormal. Il peut l'être en ville, ou en revanche. Ça dépend aussi de la période. Dans un village touristique, c'est normal d'avoir plus de bruit en été qu'en hiver. Donc, la normalité, elle dépend d'un standard qui correspond aux inconvénients qu'on peut habituellement attendre dans des circonstances de temps et de lieu qui sont comparables. Le trouble devient anormal lorsqu'il dépasse la mesure du standard, puisque c'est l'excès, la démesure qui caractérise le trouble anormal. Et donc, on ne peut faire de sa chose que ce qu'on veut dans la limite de cet excès. Alors, cette propriété, elle peut aussi parfois être aménagée, et donc le propriétaire l'a partagée. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans l'épisode 3.
Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphidamicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.